sais pas quoi dire, non?
Nous non plus.
Vas-y.
On y va?
Ouais.
Ouais, parce qu'on est déjà en retard. Bonjour, Nicolas Bizien, Gaël Picard, on est pneumologue à Quimper. Et on va vous parler de l'asthme. Alors le sujet, alors c'est pas nous qui avons écrit le titre, hein, c'est le docteur Corr. Voilà. Donc il faut le remercier. Il y a beaucoup de choses à dire, vous allez voir, et on a assez peu de temps, on va aller assez vite, même si on n'a pas le débit de parole de Mallory Carjouan, que vraiment, qui est quand même impressionnant. Alors, juste pour recentrer un peu le débat, on va parler surtout de l'asthme sévère et de la place des biothérapies. Alors on a choisi de travailler en binôme, c'est un peu une première, c'est pas toujours facile, mais c'est sympa, hein. Ça demande un peu plus de boulot de communication, mais en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui bougent, et puis... mine de rien, dans l'asthme, c'est quelque chose qui a besoin qu'on échange, je pense, pas mal. Et beaucoup de pratiques, d'après l'intuition. Puis là, il y avait beaucoup de choses à analyser, donc c'était plutôt sympa. Et donc, il faut partir quand même d'une maladie donc, qui est variée et hétérogène dans sa présentation, qui est soumise à de nombreux facteurs intrinsèques et environnementaux, et avec des thérapeutiques là, qui bougent pas mal. Donc, on a essayé un petit peu de partir de la physiopathe avec la traduction clinique que ça entraîne. Les données d'efficacité et de tolérance des traitements, la dispensation évidemment, et tout ce qui est un peu les données récentes et les perspectives. Bon, alors là, c'est une slide pour rappeler l'asthme sévère. Je vais peut-être pas forcément détailler, mais en gros, c'est la cible de notre topo, c'est ça. La prévalence est quand même très importante. Ça, c'est plus tellement à prouver et encore peut-être sous-estimé. Et juste sur le concept de haute dose, puisque la dernière phrase de la définition, c'est qui nécessite un traitement à haute dose. En fait, je mets juste la slide de ce que ça veut dire haute dose. Finalement, on y est assez vite. Si on regarde des médicaments qu'on connaît bien, hein, propionate de fluticasone au-delà des 500 microgrammes, dipropionate de béclométasone au-delà des 400 microgrammes. Donc finalement, la haute dose arrive assez vite. Voilà, juste cette dernière slide de présentation. Bon, c'est un petit rappel des traitements qu'on a un peu vu le jour. Alors on voit que ces dernières décennies, effectivement, les concepts, on est parti du bronchospasme, puis l'inflammation. Les ankylocotriènes ont abordé la notion de mucus et d'éosinophile déjà. Et puis finalement, ces 10 dernières années, on a quand même eu un réel changement dans les prises en charge. Et puis de nouveaux concepts qui sont arrivés, de remodelage, notion d'épithélium. Et la petite ligne bleue, là, on espère en fait qu'elle soit exponentielle, un peu comme le docteur Corr a vu dans le cancer bronchique. Voilà, parce qu'il a l'air de s'éclater dans son travail, là, maintenant. Ça a l'air d'être mieux qu'au temps des sels de platine.
Alors, du coup, moi, je vais commencer par vous présenter la physiopathologie de l'asthme. Bon, ça va être surtout des rappels que je pense que vous connaissez déjà, mais en gros, les grands points d'intérêt. L'asthme dans sa physiopathologie, c'est une maladie qui est complexe et hétérogène. Je vais peut-être le prendre comme ça, si j'arrive. Donc si on regarde une bronche et qu'on regarde les atteintes structurelles de cette bronche, on va avoir une dysfonction épithéliale, on va avoir une hyperplasie de cellules glandulaires dans cet épithélium avec une hypersécrétion de mucus, on va avoir bien sûr l'hyperréactivité bronchique et la mise en jeu des cellules musculaires lisses, et au milieu de tout ça, en interaction, une inflammation bronchique chronique avec différentes cellules, différents médiateurs, et puis l'inflammation, lorsqu'elle est chronique, elle va donner un remodelage avec des altérations structurelles potentiellement non réversibles. Et donc les symptômes de l'asthme vont vraiment être le reflet de ces différents mécanismes inflammatoires et donc aussi de leur hétérogénéité. Si on reprend la cascade inflammatoire avec ce type de schéma que je pense que vous connaissez, il reprend l'environnement respiratoire, l'épithélium, la cascade inflammatoire et puis la cellule musculaire lisse en bas, et qui dichotomise entre un asthme T2 et non T2. Si on regarde le haut de la cascade inflammatoire, on va s'intéresser à l'épithélium et au lien avec donc, les alarmines. Les alarmines, ce sont des médiateurs qui sont produits justement par les épithéliums lorsqu'ils sont altérés ou activés par différents agents. Ça peut être des agents allergéniques, microbiens, polluants, toxiques, mécaniques. Et puis, une fois qu'ils sont sécrétés, ils vont aller stimuler de façon très importante l'inflammation et donc l'activité pro-inflammatoire. Dans l'asthme, on s'intéresse surtout à la TSLP, l'interleukine 33, l'interleukine 25, qui vont plutôt polariser vers une inflammation de type 2, mais pas que. On voit que la TSLP notamment est impliquée dans les mécanismes non T2. Alors qu'est-ce que c'est qu'une inflammation T2? C'est une réponse inflammatoire à la fois adaptative avec des lymphocytes T helper notamment, et une réponse inflammatoire innée avec des innate lymphoid cells, les ILC. Donc les ILC, c'est vraiment des lymphocytes, mais de l'immunité innée. Et donc ces deux cellules vont vraiment être au centre de la mécanique inflammatoire T2, avec ils vont orienter l'inflammation vers une inflammation allergique ou atopique et ou vers une inflammation éosinophilique. Et ce, via la sécrétion d'un profil cytokinique commun qui est dit donc de type 2, et essentiellement dans l'asthme, l'interleukine 5, l'interleukine 4, l'interleukine 13. Si on regarde plus spécifiquement l'interleukine 5, ça va être vraiment sur les éosinophiles, très spécifique de l'éosinophile, avec ça va jouer sur leur recrutement, leur différenciation et leur survie notamment. L'interleukine 4 va avoir un rôle dans l'allergie avec notamment l'orientation des lymphocytes B vers des plasmocytes plutôt sécréteurs d'IgE et donc qui vont pouvoir aller activer le mastocyte lors de leur rencontre avec l'allergène. Et enfin, l'interleukine 13, si ça marche, voilà. L'interleukine 13 va pouvoir avoir un rôle vraiment direct sur la contraction musculaire lisse, donc la bronchoconstriction, sur la sécrétion de mucus. On sait que c'est via l'interleukine 13 aussi qu'il y a le monoxyde d'azote sécrété par l'épithélium dans les voies respiratoires. Et puis les interleukines 4 et 13 vont jouer un rôle dans l'éosinophilie bronchique puisqu'on va permettre leur passage du sang vers les mucuses. Si on s'intéresse aux éosinophiles, ça va vraiment être la cellule actrice dans les altérations structurelles en libérant différents médiateurs qui vont avoir une action directe sur l'hyperréactivité bronchique, sur l'activation et les lésions de l'épithélium, sur l'entretien de l'inflammation T2 et vont vraiment favoriser l'impaction du mucus dans les bronches. Et j'aime bien cette image que j'ai entendue dans un topo du professeur Chanès qui dit que l'éosinophile est vraiment le soldat de l'inflammation bronchique avec une action majeure dans l'exacerbation aiguë et dans le remodelage. Alors si on revient à un patient asthmatique, comment savoir s'il a une inflammation de type 2 dans ses bronches? On va parler de phénotypes cliniques et de biomarqueurs. Les phénotypes cliniques, c'est ce qu'on connaît, hein, l'asthme allergique avec son contexte atopique, la rhinoconjonctivité allergique, la sensibilisation à un pneu allergène. Et il y a l'asthme T2 qui est dit non allergique ou qu'on appelle aussi éosinophilique. C'est l'asthme plutôt d'apparition tardive, plus de 18 ans, voire plus tardive, plus de 40 ans. Très associé à la polypose nasocinienne, qui est aussi une maladie d'inflammation de type 2. Un asthme plutôt sensible aux corticoïdes, et puis marqueur d'exacerbation souvent plus fréquente et plus sévère. En termes de biomarqueurs dit T2i, on va regarder les éosinophiles dans les crachats, à plus de 2%. Alors ça, c'est un peu la définition historique, mais qui est difficile à faire en pratique. Et donc, on va regarder l'éosinophilie sanguine et la fraction exhalée de monoxyde d'azote lorsqu'on n'y a accès. J'ai repris les cut-off du GINA qui classent l'asthme comme T2i lorsqu'il y a plus de 150 éosinophiles ou un FNO à plus de 20. On peut se dire que ce sont des cut-off plutôt bas, mais le GINA dit bien que c'est à prendre en compte selon la pression thérapeutique et donc sous corticoïdes inhalés forte dose, si vous avez toujours ces taux d'éosinophiles ou de FNO, on peut penser qu'il y a un asthme T2 réfractaire au cortico. Ils disent aussi qu'ils prennent ces cut-off parce que ce sont les cut-off qui ont montré une association avec l'efficacité des biothérapies. Et puis, ils précisent bien qu'il faut répéter au moins 3 fois et à différents temps sur plusieurs mois les dosages, et notamment lors des exacerbations, pour essayer vraiment de traquer cette inflammation de type 2. Donc on a parlé de l'inflammation de type 2. Si on regarde rapidement l'inflammation non T2, c'est des mécanismes qui sont moins connus dans l'asthme, qui vont impliquer d'autres voies immunitaires, TH1, TH17, des neutrophiles, également des alarmines, dont la TLCLP à nouveau, et qui vont aboutir aux mêmes atteintes structurelles. En termes de phénotype, on va plutôt avoir des gens plus obèses, plus de tabagisme, des sujets vraiment plus âgés, un asthme moins sensible aux corticoïdes inhalés. Les biomarqueurs, il n'y en a aucun de validé, et puis la définition va plutôt être négative, c'est-à-dire lorsqu'on n'a pas retrouvé de marqueur T2. Et puis finalement, chez notre patient asthmatique, il va y avoir une intrication de ces différents mécanismes et donc une hétérogénéité de son inflammation et donc de son asthme, de ses symptômes. Alors en troisième partie, qu'en est-il des biothérapies actuelles et des algorithmes qu'on peut proposer? C'est pareil, c'est vraiment des rappels de ce qui existe et de ce qui est vrai aujourd'hui. Alors les biothérapies, vous les connaissez, celles qui sont disponibles en France, c'est l'omalizumab qui est vraiment un anti-IgE. Le mepolizumab, qui est un anti-IL-5, et le baralizumab, qui est un anti-IL-5 récepteur, qui vont vraiment agir donc sur l'inhibition de la voie éosinophilique. Le dupilumab, qui est un anti-récepteur de l'interleukine 4, qui va inhiber à la fois l'interleukine 4 et l'interleukine 13, qui va avoir du coup une action plus haute dans la mécanique inflammatoire T2. Et enfin, le tezepilumab, qui est un anti-TSLP, et donc vraiment une action encore plus haute dans l'inflammation et plus large. Et donc la question, c'est est-ce qu'on veut taper sur l'inflammation la plus haute, ou bien plutôt sur la coordination T2, ou encore plus bas, vraiment sur le soldat de l'inflammation, quoi. Quelles sont les preuves d'efficacité? Alors, j'ai juste repris une méta-analyse récente de 2024, publié dans l'European Respiratory Review, qui a poulé toutes les études randomisées contrôlées des différentes biothérapies. Juste pour dire que voilà, les données d'efficacité qui font maintenant à peu près consensus, c'est vraiment sur la réduction d'exacerbation, les hospitalisations, l'amélioration de la fonction respiratoire, de la qualité de vie et du contrôle de l'asthme, et de la réduction des corticoïdes oraux, avec tout de même une note pour le tezepilumab, puisque l'étude qui a essayé de montrer la réduction des corticoïdes oraux, l'efficacité sur la réduction des corticoïdes oraux était négative, mais voilà, peut-être un problème de méthodologie. Donc il y a une deuxième étude qui est en cours. J'ai rapidement aussi repris des données de vraie vie, juste pour dire que ça marche aussi en vraie vie. Des données de la cohorte RAMSES, la cohorte française d'asthme sévère en vraie vie, qui a été débutée en 2019. Donc, vous voyez qu'il y a des posters qui ont été présentés au congrès au CPLF de 2024. Juste pour dire, voilà, sur le mepolizumab, baralizumab, dupilumab, l'efficacité sur un an, cela confirme une diminution du taux des exacerbations, une amélioration du score de contrôle, une amélioration du VMS et la réduction des corticoïdes oraux. À partir de là, quels sont les critères d'éligibilité des biothérapies? Donc, on est vraiment dans l'asthme sévère. Le palier 5 du GINA avec les corticoïdes inhalés forte dose, associés à des bronchodilatateurs de longue durée d'action, plus ou moins un troisième traitement du contrôle de l'asthme. Donc vraiment, voilà, un asthme sévère qui, malgré ce palier-là, n'est pas contrôlé, avec surtout des exacerbations. Donc ça, c'est vrai pour toutes les biothérapies, ou la persistance d'une corticothérapie orale. Donc l'omalizumab, ça va rester vraiment l'asthme allergique avec une sensibilisation à un allergène pérennuel. Les anti-IL-5 récepteurs, ça va être l'éosinophilie à plus de 150 en France. Le dupilumab, une éosinophilie à plus de 150 ou un FNO à plus de 25. Et puis le tezepilumab, c'est le seul qui a la MM à la fois pour le non-T2 et pour le T2, mais avec des preuves beaucoup plus importantes sur l'efficacité dans le phénotype T2. Et donc on voit que finalement les indications se recoupent dans le phénotype. Et donc pour aller plus loin dans le choix, on va pouvoir regarder les marqueurs possibles de prédiction de la réponse. On va pouvoir regarder les taux d'éosinophiles, le taux de FNO, le fait d'avoir une polypose nasale qui est vraiment un marqueur clinique d'efficacité des biothérapies dans l'asthme, et particulièrement pour celle-ci, en tout cas en termes de preuves actuellement. Et le nombre d'exacerbations aussi. Bon, là encore, ça se recoupe en termes de marqueurs. Donc, on va ensuite pouvoir regarder les comorbidités et donc les efficacités des biothérapies dans ces comorbidités et les AMM sur d'autres maladies. L'omalizumab est à l'AMM dans l'urticaire chronique et dans la polypose nasale, mais uniquement associé à l'asthme allergique. Le mepolizumab à l'AMM dans la polypose nasale et les maladies à éosinophile, donc syndrome hyper-éosinophilique, GPA. Pour l'instant, le baralizumab n'a pas ses AMM. Le dupilumab à l'AMM dans la polypose nasale et la dermatite atopique. Et puis ça, ce tableau, c'est vraiment voué à changer dans les prochaines années, parce qu'il y a pas mal d'AMM qui sont soit en attente, soit voilà, il y a des études qui sont en cours, par exemple donc le baralizumab et le tezepilumab. Il y a des phases 3 qui sont en cours pour obtenir l'AMM sur la polypose nasale. Ensuite, donc, quel algorithme on peut proposer? Ça, c'est l'algorithme du GINA, mais qui n'est pas facile à présenter ici. Donc, j'ai choisi de vous présenter, il est bien fait, donc si vous avez le temps de le lire, vous pouvez, mais j'ai choisi de présenter plutôt un algorithme trouvé dans un article de Bruxelles dans le New England de 2022, mais qui, à notre sens, est toujours d'actualité. Donc lui, il propose en tout cas de dichotomiser en asthme sévère cortico-dépendant ou non cortico-dépendant. Lorsqu'il est cortico-dépendant, on regarde s'il y a de l'éosinophile et on choisit en fonction, sachant qu'ici, il propose du dupilumab, même s'il n'y a pas de marqueur T2, mais en France, ça n'a pas la MM. Lorsqu'il n'y a pas de corticoïdes oraux, pas de dépendance aux corticoïdes oraux, il propose de regarder l'éosinophilie. Lorsqu'il est plus de 1500 éosinophiles, il faut quand même s'assurer qu'on n'est pas dans une autre type de maladie type EGPA ou autre. Et donc, si on reste dans l'asthme sévère, on propose actuellement les anti-IL-5, anti-IL-5 récepteurs. On va éviter le dupilumab puisque dans son mode d'action, il peut donner des hyper-éosinophilies. Ensuite, donc, si les éosinophiles sont à moins de 150, il propose de regarder le FNO lorsqu'il est disponible, enfin, lorsqu'on y a accès. Et puis le caractère allergique ou non et de choisir en fonction. On voit là que lorsqu'il n'y a ni éosinophile, ni FNO, ni asthme allergique, bah, finalement, il ne reste que le tezepulumab. Et à l'inverse, et ça va être vraiment les situations probablement les plus fréquentes hein, qu'on rencontre, c'est le patient qui a entre 150 et 1500. Et c'est là qu'on va regarder les facteurs que je vous ai présentés tout à l'heure et pouvoir pondérer, par exemple, c'est vrai. Voilà, c'est vraiment des exemples, hein, mais s'il y a une polypose nasale vraiment très symptomatique, on va rester sur, enfin, on va proposer plutôt ceux qui ont l'AMM actuellement, à savoir le mépolizumab, le dupilumab. S'il y a vraiment un taux d'exacerbation très élevé, peut-être plutôt privilégier le mépolizumab ou le berazumab. S'il y a un taux de FNO très élevé, peut-être plutôt le dupilumab ou le tezepilumab. Et enfin, si c'est vraiment un asthme très médié par l'allergie, plutôt proposer encore actuellement l'omalizumab. Finalement, encore une fois, là, une fois qu'on a déroulé l'algorithme, ça se recoupe beaucoup. Et donc, ce qui va pondérer beaucoup, bah, c'est les modalités d'administration. Vous le savez, l'omalizumab est le seul qui n'a pas l'auto-injection, qui peut être le plus contraignant parfois puisque ça peut aller jusqu'à 4 injections toutes les 2 à 4 semaines. Les autres, ben, vous connaissez, je pense, les fréquences. Mépolizumab toutes les 4 semaines, baralizumab tous les 2 mois après une dose de charge, le dupilumab toutes les 2 semaines, le tezepilumab toutes les 4 semaines. Et donc, en fonction de notre patient devant nous, on peut aussi choisir là-dessus. On peut aussi s'intéresser aux coûts de santé. On a calculé les prix sur un an à partir du prix du Vidal. Finalement, on voit qu'ils sont à peu près tous dans les mêmes ordres de prix. Voilà. Et donc, quelques remarques sur les algorithmes actuels. Il n'y a pas de preuve solide pour privilégier une biothérapie versus une autre pour un même phénotype. Il n'y a aucune étude de face-face qui randomise une biothérapie versus une autre. Il y a l'étude Predictumab qui est en cours, mais dont on n'a pas le résultat, qui évalue l'omalizumab versus le mépolizumab. Et donc, uniquement des études comparatives indirectes et très hétérogènes entre elles. Donc voilà, on ne peut pas hiérarchiser sur l'efficacité d'une biothérapie quand on a deux phénotypes identiques. Les AMM et les éligibilités, on l'a dit, se recoupent de plus en plus. Pourtant, quand on voit nos patients asthmatiques devant nous, ils restent très hétérogènes entre eux. Et donc, on s'est posé la question, est-ce qu'on peut aller un peu plus loin dans le phénotype clinique? Et ça me permet de passer la parole à Nicolas.
Merci. Alors, ouais, ça marche? Oui, c'est bon. Bon, on va pas faire une bible, hein, mais on a essayé de travailler un peu les éléments de réponse. Faire un algorithme, c'est, enfin bon, c'est impossible aujourd'hui hein, avec les données qu'on a. Mais on est reparti un peu de cette slide là qu'on trouvait très intéressante, et on regarde en fait, on a dit que l'asthme était hétérogène, et effectivement, on voit qu'il y a différents mécanismes. Donc les exacerbateurs, bah, ça on connaît tous, hein, mais effectivement, il y a des traductions cliniques qui peuvent être différentes. Il peut y avoir un remodelage avec une perte de fonction, un TVO fixé ou non, hypertrophie de la muqueuse. Il y a des gens qui sont plutôt avec une bronchorée, des impactions mucoïdes ou expectoration. Et on s'est dit, bah, est-ce qu'il y a des réponses à ces questions spécifiquement quoi. Bon, alors je n'ai pas le temps de tout détailler, mais effectivement, il y a des études qui sont intéressantes sur la notion de mucus, par exemple. Hein, cette étude à gauche sur le dupilumab qui diminue le score de mucus. Versus placebo. Cette étude avec le tezepelumab qui montre aussi une amélioration en fait, des impactions mucoïdes et donc du mucus. Donc ça, c'est des notions qui sont assez intéressantes en pratique. Quoi. Est-ce qu'il ne faut pas aller un peu plus loin dans le phénotype pour voir si tel ou tel traitement serait efficace sur des symptômes plus spécifiques, comme sur la toux et l'expectoration également. Également sur le remodelage, ça c'est une notion qui est abordée plus fréquemment, la notion de remodelage. On n'est pas exhaustif hein, dans toutes les études et toutes les molécules, hein, c'est intéressant de montrer qu'il y a un effet quand même sur le remodelage. Là, c'est une étude de Mesilico, il y en a eu d'autres, hein, sur le mépolizumab, qui montre qu'il y a une réduction du dommage épithélial, une diminution de l'épaisseur de la lamina reticularis, du muscle lisse. Donc, on a quand même des efficacités intéressantes, et ce qui nous permet peut-être à l'avenir de mieux sélectionner en termes de profil. Quoi. Voilà. Et il y a une autre question qu'il faut se poser aussi, est-ce qu'il y a des facteurs prédictifs de la réponse au traitement ? Alors, on entend beaucoup parler des éosinophiles, effectivement, plus c'est élevé, mieux ça répond. Enfin, voilà. Bon, ça a été présenté à l'ERS, Baraliscan, c'était prédire la réponse au barrage des asthmatiques sévères avec un TDM thoracique dynamique. Bon, alors, il n'y a pas facteur prédictif, mais en termes de réponse, on avait l'impression que c'était peut-être un peu plus prédictif quand même que le taux des eosinophiles uniquement. Voilà. Donc le piégeage gazeux, pourquoi pas, et probablement qu'il y aura d'autres comme ça mécanismes à développer pour justement mieux sélectionner les patients. La dernière notion à aborder dans cette réflexion, c'était la réponse clinique. Alors, on voit que ça répond, on est content, on voit que les malades, quand même, globalement, vont mieux. Mais ça, c'est une étude observationnelle danoise qui était assez intéressante. Donc, il y a forcément une bonne réponse des patients en biothérapie, mais il y a un concept de rémission clinique, là, qu'on entend aussi. Rémission clinique qui est sous-entendue par l'absence d'exacerbation, l'arrêt des corticostéroïdes oraux, la normalisation de la fonction pulmonaire et un score de symptômes bas. Quoi. Voilà. Et dans ce registre-là, il conclut en disant, c'est une notion donc, qui nous paraissait assez intéressante, que la chance de rémission était meilleure chez les patients avec une maladie plus courte et moins grave. En sous-entendant que peut-être il faudrait intervenir plus précocement. Ah, ça a coupé. Pour avoir des résultats en gros optimum. Quoi. Voilà. Et bien justement, alors du coup, quand est-ce qu'il faut y penser en fait ? Quand introduire ce traitement ? On voit que les extensions, il y a des extensions d'indication, elles ne sont peut-être même pas exhaustives, parce que je crois qu'il y a le prurigo nodulaire en plus pour le DUPI, donc polypose, dermatite, les maladies éosinophiliques, BPCO, et donc quid des ACOS, voilà, asthme, COPD, overlap syndrome. Donc c'est sûr que ça va bouger. Les prescriptions vont probablement augmenter avec les indications, le coût devrait baisser, ça fait peut-être un peu beaucoup aussi. Et donc avec l'augmentation des indications, donc ça c'est sûr qu'on va les voir de plus en plus. Et puis il y a quand même le concept aussi de bonne tolérance qui est important parce que c'est des médicaments qui ont les indications en pédiatrie. Et puis les études de vraie vie, dont certaines sont encore en cours, confirment en fait les données d'RCP. Hein. Donc on voit que globalement, ce sont des traitements quand même plutôt bien tolérés. Quoi. Bon alors là c'est un peu provocateur, mais palier 4, bon, c'est une blague d'asthmologue. Et en fait, quand on regarde un peu le GINA, j'ai remonté un peu le temps progressivement pour voir. Et puis effectivement, en 2018, la haute dose de CSI de corticostéroïdes inhalés était dans le palier 4. En 2019, elle passe au palier 5, elle reste un peu en tête de liste, dans le sens où vraiment, corticostéroïdes oraux, faut monter, voilà. Il y a quand même la notion de phénotype qui apparaît et qui reste de toute façon. Et puis on voit que sur le GINA 2024, la haute dose, elle est toujours, évidemment, mais elle est un peu noyée quand même. Et on voit apparaître plutôt le phénotype quand même en disant regardez un peu votre malade. Et puis après, vous réfléchissez quoi. Et ça, ça c'est pareil, ça nous a un peu questionnés. On s'est dit c'est assez intéressant. Ce d'autant qu'il y a des études aussi sur l'efficacité et la tolérance des CSI. C'est vrai que, en fonction des générations, on a complètement banalisé les corticoïdes, que ça soit oraux, puis moins maintenant, parce qu'on se dit, oh là là, il ne faut surtout pas mettre des corticoïdes, alors qu'en fait, clairement, moi, mon prédécesseur, lui, s'il n'avait pas eu de corticoïdes, clairement, ses malades mouraient. Donc, à part ça, il n'y avait pas grand-chose. Et c'est vrai que les corticostéroïdes, je pense, sont quand même... en tout cas, la dose est probablement banalisée aussi. Et en fait, quand on regarde cette étude qui est intéressante, parce que le schéma, il est quand même très parlant, en fait, on voit qu'avec une faible dose de traitement, ce sont les effets positifs, l'efficacité sur le VMS, sur le peak flow matinal du soir, l'utilisation de traitements de secours, les exacerbations, les réveils nocturnes. Enfin, on voit qu'on est efficace à faible dose. Quand on monte la dose, alors il y a peut-être un petit gain d'efficacité pour certains malades qui quand même bénéficient d'une augmentation de dose, mais finalement assez peu. Alors que les effets indésirables, là, ce sont les effets qui sont ici plutôt linéaires avec l'insuffisance corticotrope, le diabète, cataracte, les fractures non vertébrales. Donc on est quand même peut-être un peu plus efficace chez certains malades, mais on est surtout plus toxique. Bon, on ne pouvait pas ne pas parler de l'étude Chamal qui est parue en début d'année dans le Lancet, va conditionner quand même nos pratiques. Hein. Ça, c'est sûr que ça va marquer un changement hein, quand même dans la réflexion en tout cas. Donc c'est une étude de phase 4 sur le BARA et les CSI. Multicentrique, randomisé, contrôlé en ouvert, en gros en 3 pour 1, c'est des gens qui ont des hautes doses de CSI, voilà, qu'on passe sous bunezolide de formotérol, et on fait 3 bras en face de bras de réduction de traitement, hein, qu'on va passer à dose moyenne, faible ou à la demande, en fonction du contrôle ou pas. Voilà. Donc il y a une phase de réduction de traitement pendant 32 semaines, tant qu'ils sont contrôlés, on baisse, et puis une phase de maintenance après de 32 à 48 semaines. Bon, 117 patients dans le bras réduction, 37 dans le bras contrôle, et on regarde en gros si les gens ont pu réduire leur traitement. Donc ils avaient eu au moins 3 injections de BARA avant de commencer. Hein. Voilà. Et donc ça, c'est les résultats qui sont quand même très intéressants. À 32 semaines, on voit que 92% des patients ont pu réduire leur traitement de fond. Hein. Et 61% se retrouvent dans le bras reliever only. Alors, ce qui paraît quand même beaucoup, mais on a quand même réussi de passer à de la haute dose à du reliever only en 32 semaines. Bon. Et de 32 à 48 semaines, on voit qu'il n'y a pas eu tellement de changements, c'est-à-dire qu'en gros, le traitement n'a pas été très modifié, donc il y a un maintien du contrôle. En termes de quantité de CSI inhalés par jour, donc on est quand même sur des hautes doses. Hein, quand on voit les doses initiales, on est 1500-1600 microgrammes jour. On a quand même pu diminuer donc, la pression en fait, des corticoïdes, hein, avec une dose divisée par 4 à la 32e semaine, maintenue à la 48e semaine. Voilà. On a quasiment une différence de 3,5 entre le bras contrôle et le bras réduction de traitement. Voilà, quand on regarde un peu plus en détail, et ben dans le bras réduction de traitement, on a quand même un VMS qui baisse par rapport au bras contrôle de 100 ml, avec une augmentation en fait parallèle du FENO, mais en sous-groupe, alors là, c'est la courbe rouge, le reliever only, donc c'est celle qui descend. Et donc c'est dans ce bras-là en fait, où il y a une réduction du VMS, effectivement, et une ascension de la FENO. Dans le bras faible dose et dose moyenne, ici, donc ça baisse à 32 semaines, et il y a une réascension à 48 semaines sans qu'on puisse se l'expliquer. Bon. En tout cas, on a l'impression qu'on peut réduire le traitement de fond, ce qui est quand même, c'est quand même une notion importante. Dernière notion de cette étude qu'on trouvait intéressante quand même à mettre, c'est le taux d'exacerbation. Durant la période de réduction de traitement, on a quand même un taux d'exacerbation qui est un peu plus important hein, dans le bras réduction de traitement. Sur la phase de maintenance, c'est similaire. Et puis, en fait, en totalité, ça reste similaire. On était en 3 pour 1, hein, donc on n'a pas plus d'exa. Mais on voit que sur la phase de réduction de traitement, il faut peut-être quand même être vigilant sur la décroissance des CSI, peut-être que là, il y a eu une décroissance un peu rapide, passer de la haute dose à 1500 microgrammes à reliever only. Bon, voilà, peut-être qu'il faut quand même y aller plus progressivement. Bon, et bien sûr, alors là, on ne va pas tout lister, hein, ça, c'est pas possible, parce qu'il y a tellement de choses là qui sont à l'étude, plein de nouvelles molécules, hein, des anticorps monoclonaux inhalés, et puis d'autres anticorps, anti-L23, anti-ST2, voilà, donc on sent que ça va bouger, ce qui est super intéressant pour nous. Et je vous parle juste rapidement du dépemokimab, là, dont le papier est sorti ce mois-ci dans le New England. Le dépemokimab, c'est un anticorps anti-IL-5 à haute affinité à demi-vie longue. C'est une injection semestrielle. Donc là, c'est pareil, ça commence un peu à changer un peu nos pratiques. Et donc, on regarde si ça diminue le taux annualisé d'exacerbation dans l'asthme sévère et éosinophilique. Eh bien oui, donc c'est SWIFT, hein, l'étude SWIFT 1 et 2, c'est des études jumelles hein, qui sont designées pareil. Effectivement, on voit qu'en bas, le dépemokimab à S52, il y a un taux d'exacerbation qui est quand même nettement diminué par rapport au bras contrôle. SWIFT 2 trouve le même résultat. Donc, ça marche, quoi. En conclusion, malheureusement, on n'a pas pu vous faire un bel algorithme. Hop là. On aurait aimé, mais clairement, vous avez compris que ça ne va pas être aussi simple que ça. C'est fréquent, hein, forcément, l'asthme. Et l'asthme sévère, en fait, c'est loin d'être rare. c'est très hétérogène. On va essayer de, plutôt d'avoir une approche phénotypique, hein, avec une prise en charge de plus en plus personnalisée. On a vu que les CSI avaient un peu la vie dure aussi, hein, quand même, mais résistent. Hein, faut pas oublier quand même qu'ils sont toujours utiles. Hein, là, on parle de l'asthme sévère et clairement, on n'est pas encore au sevrage complet des corticostéroïdes inhalés. Mais on voit que les biothérapies prennent de la place. Alors, il y a beaucoup de données, énormément de données. Pas encore d'études comparatives pour essayer d'organiser un peu plus notre pensée. Et puis surtout, il y a des nouveaux biologiques qui vont venir avec des cibles différentes, des mécanismes différents, des modalités d'administration différentes. Bon, ça va être assez sympa. Mais au lieu de construire notre réflexion thérapeutique brique par brique, un peu comme dans le GINA, je pense qu'il va falloir déconstruire ça un peu et partir vraiment un peu en étoile, quoi. C'est-à-dire qu'on va voir un peu quels sont les mécanismes en fait, physiopathologiques et la traduction clinique pour traiter. On ne va plus peut-être avoir cette incrémentation de traitement. On rajoute, on rajoute, on rajoute. Ça aura peut-être moins de sens à l'avenir. Voilà, avec des nouveaux facteurs prédictifs de réponse peut-être et des algorithmes, on espère, tout fait, qu'on n'ait plus à réfléchir. Et en tenant compte, bien sûr, toujours du patient. Voilà. Dernière chose pour dire qu'on a réussi à mettre en place des réunions de concertation. Je ne sais pas si tout le monde peut le faire. C'est vrai que ça paraissait assez simple, l'asthme, il y a peut-être 30 ans ou 40 ans, je ne sais pas comment on peut le voir. C'est beaucoup moins simple maintenant, on est content d'en discuter finalement, hein, parce qu'on on a tous nos habitudes, et puis finalement, je pense que c'est bien de se confronter un peu aux avis des autres. Et puis peut-être qu'un jour, l'IA nous y aidera, on ne sait pas. Ouais.
Merci.
Merci.
Merci à tous les deux. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je note que le débit de Gaël n'est pas très loin. Alors, hein. Ça devient complexe, limite intéressant. Même.
Quasiment un métier. Ouais. Quasiment un métier.
Ouais, ouais. Quasiment un métier. Ouais. Mmh. Ouais.
Avant, c'était un hobby, et là, c'est un métier, quoi.
Est-ce qu'il n'y aurait pas la place, un peu comme dans le cancer, d'applications type aura ou oncologique, de recommandations actualisées annuelles pour être un peu aidé, avoir ça sur son smartphone? Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Ah ben oui, probablement, je pense que ça viendra, hein, à mon avis. Mais là, on est dans une phase encore où ça bouge. Ça va bouger là, énormément. Donc avant de construire ça, je pense qu'il va falloir un peu se poser et vraiment réfléchir un peu aux cibles, quoi. Là, à l'heure actuelle, c'est un peu la compétition, hein. On voit, il y a une AMM dans telle ou telle maladie, donc les autres veulent l'avoir. Enfin, bon, voilà. Et puis en plus, on voit bien que ça marche. Donc là, clairement, on a quand même assez peu de critères de choix, quoi.
Ce qui est assez étonnant, c'est que la partie thérapeutique, entre guillemets, elle est assez complexe. Mais les éléments qui font décider restent encore assez cliniques. Et c'est ça qui est un peu bizarre. On imagine que c'est la partie décisionnelle des paramètres qu'on va prendre en compte pour décider qui va bouger après. Enfin, un peu comme dans le cancer, on va venir à l'étage moléculaire, quoi. C'est probablement.
Oui, c'est très possible.
Ouais. Pas d'autres questions ? Merci beaucoup.